RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. On commence notre émission par le journal, puis la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Maintenant, écoutons le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie est capable de gérer l'impact de catastrophe de Lombok. L'utilisation du carburant Euro 4 réduit la perte causée par la pollution atmosphérique. La Colombie s'étend à ce que l'Indonésie accorde un visa gratuit aux Colombiens. L'espoir des États-Unis pour l'élection présidentielle 2019. L'Indonésie et les Philippines sont d'accord pour renforcer la coopération antiterroriste. Charami nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo, vendredi à Jakarta, a déclaré que le gouvernement indonésien s'ouvre à la possibilité d'une aide étrangère pour les victimes de la catastrophe de Lombok à Nusa Tenggara Ouest. Néanmoins, le président a souligné que le gouvernement indonésien était en mesure de soigner les victimes, notamment pour mener le processus de réhabilitation et de construction des bâtiments qui ont été détruits par le séisme. À la même occasion, le président a également dit la possibilité qu'il se rende dans la province de Nusa Tenggara Ouest pour voir directement la gestion des catastrophes effectuée par son personnel. Nous sommes ouverts à recevoir l'aide parce que les gens là-bas en ont besoin. Mais nous sommes encore capables de surmonter cela en reconstruisant les maisons endommagées. Et maintenant, il y a encore le tremblement de terre. On m'a conseillé d'y aller dimanche, ou bien lundi, ou bien mardi. Presque tous les jours, il y a toujours un tremblement de terre. Qui n'est pas un petit tremblement de terre, hier 6,2 et auparavant 6,5. Auparavant, un séisme d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter a secoué la province de Nusa Tenggara Ouest le dimanche 5 août 2018 après-midi. Selon les données de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, la région de l'ouest de Lombok, l'est de Lombok et la ville de Mataram sont devenues les zones les plus touchées par le séisme. Jusqu'à hier, une réplique d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter était encore ressentie dans la région. Le gouvernement indonésien continue d'encourager les changements dans les normes d'émission de fuel oil ou BBM Euro 2 à Euro 4. L'utilisation du carburant aux normes d'émission Euro 4 non seulement peut donner un impact positif sur la santé de l'air, mais aussi sur l'économie de l'Indonésie. Le responsable de la conservation de l'environnement du ministère de la Coordination des Affaires économiques, Dida Gardera a déclaré que les avantages économiques ne pouvaient pas être séparés de la nature du carburant Euro 4 qui était plus écologique que Euro 2 qui était actuellement disponible dans la station d'essence ou SPBU Pertamina en Indonésie. Selon Dida, le nombre de pertes dues à la pollution de l'environnement a atteint 40 000 trillions de rupiah. Ce chiffre provient de divers problèmes de santé publique dus à la respiration de l'air pollué et aux dommages de diverses installations et bâtiments causés par les pluies acides.
Beberapa lembaga research itu mengatakan dengan kemacetan yang ditimbulkan.
Certains instituts de recherche ont déclaré que les embouteillages faisaient la pollution qui atteint 40 000 trillions de rupiah. Nous approfondissons cette question. Mais en effet, avec les embouteillages et la pollution, cela nuit à la santé. Et n'oubliez pas, parce que c'est dérivé du soufre. Ce soufre provoque des pluies acides. Les pluies acides sont corrosives. Avec l'amélioration de carburant, l'impact sur l'environnement diminuera bien qu'il y ait les embouteillages.
Walaupun terjadi kemacetan mungkin tetap, tapi karena emisinya lebih bagus, dampak terhadap lingkungannya juga akan menurun.
Selon Dida, la mise en œuvre du carburant Euro 4 fera des produits automobiles qui sont assemblés en Indonésie peuvent facilement pénétrer le marché de l'exportation. On peut dire que l'Indonésie est en retard sur la mise en œuvre des normes d'émission Euro 4. Singapour a mis en œuvre ses normes d'émission en 2006 et ensuite la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie en 2013. Par conséquent, le ministère de la Coordination des Affaires économiques encourage toutes les parties concernées à accélérer l'utilisation de carburant Euro 4. Il a l'intention de réaliser du carburant Euro 4 dans les 20 prochains mois. Dida a également confirmé que l'industrie automobile nationale était prête à mettre en œuvre du carburant Euro 4. Les nouvelles voitures qui sont vendues à partir de 2018 doivent respecter les normes Euro 4, mais les voitures de carburant Euro 2 peuvent encore être utilisées et le type de carburant est disponible. Le processus continue à fonctionner normalement jusqu'à toutes les raffineries de pétrole de Pertamina peuvent répondre à tous les besoins de carburant Euro 4. Le gouvernement colombien espère que l'Indonésie pourra immédiatement accorder la liberté de visa aux Colombiens qui veulent se rendre en Indonésie. Cela a été dit par le chargé d'affaires de l'ambassade de Colombie pour l'Indonésie, Claudia Lopez, récemment à Jakarta. Selon lui, actuellement, la politique d'exemption de visa du gouvernement indonésien pour la Colombie n'a atteint que les visas des fonctionnaires et des diplomates. La même chose n'est pas encore arrivée à la communauté colombienne dans son ensemble. Claudia Lopez a souligné l'importance d'accorder des exemptions de visa aux Colombiens parce que le gouvernement colombien a donné cette liberté au peuple indonésien. Elle espère que l'exemption de visa pour les Colombiens pourra être réalisée dans le but de soutenir le renforcement de coopération entre les deux pays. Claudia Lopez a déclaré que l'Indonésie et la Colombie avaient des similitudes dans divers domaines. Les deux pays sont des pays du Pacifique avec une similitude géographique. C'est un potentiel pour les deux pays d'améliorer leurs relations de coopération en partageant leurs expériences pour améliorer l'économie des deux parties. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur américain en Indonésie, Joseph Donovan, a dit que le gouvernement et le peuple américain attendent les élections législatives, présidentielles et le vice-président de l'Indonésie en 2019 pour se dérouler librement et pacifiquement. Cela a été dit par Donovan aux journalistes à l'ambassade américaine à Jakarta récemment. L'ambassadeur Donovan a également précisé qu'il n'y avait pas de discussion sur l'élection à la réunion du secrétaire d'État Mike Pompeo avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et avec le président Joko Widodo lors de sa visite à Jakarta du 4 au 5 août 2018. Selon Donovan, les États-Unis continueront d'honorer la compréhension, la pratique et les relations de la démocratie en Indonésie qui respecte la valeur de la diversité, le pluralisme et la tolérance. il a également confirmé que les deux pays se sont avérés avoir un engagement ferme à mettre en œuvre ces valeurs dans la vie démocratique. L'Indonésie organisera les élections législatives, président et vice-président de l'Indonésie pour les 5 prochaines années simultanément le 17 avril 2019. L'Indonésie organisera des élections législatives, président et vice-président pour la période de 5 prochaines années simultanément le 17 avril 2019. L'Indonésie et les Philippines sont d'accord pour renforcer la coopération de la défense, y compris l'élimination du terrorisme à l'avenir en impliquant les forces terrestres, maritimes et aériennes. Cela a été déclaré par le ministre de la Défense, Riamiza Triakudu, récemment à Manille, lors d'une réunion avec le ministre philippin de la Défense, Delphine N. Lorenzana. Selon Riamiza Triakudu, la coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays, y compris l'éradication du terrorisme, se déroule bien, bien que la situation dans la région, notamment la frontière entre l'Indonésie et les Philippines, soit relativement sûre, les menaces terroristes devaient toujours être surveillées. Le ministre philippin de la Défense, Delphine N. Lorenzana, a déclaré que le terrorisme est un crime que ne reconnaissait pas les frontières des États. La mise en œuvre de la coopération de sécurité et de défense entre les deux pays est une forme d'engagement des deux pays à assurer la stabilité de la sécurité, non seulement pour les deux pays, mais aussi la sécurité régionale. Il a souligné que cette coopération devait continuer à être améliorée par diverses plateformes telles que le dialogue, l'échange d'informations et des autres. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. C'est tout notre programme pour ce soir. On se retrouvera demain, dans la même heure et la même fréquence. Au revoir. Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans la mise au point de la semaine. Le titre d'aujourd'hui est Le président Jokowi a publié le contingent des 18e Jeux Asiatiques. Les auditeurs, le président Joko Widodo a inauguré le contingent indonésien pour les 18e Jeux Asiatiques qui auront lieu à Jakarta et à Palembang du 18 août au 2 septembre. La libération a eu lieu à la cour centrale du Palais de Merdeka à Jakarta, mercredi 8 août. Dans son remarque, le président leur a rappelé qu'ils sont les meilleurs fils et filles de l'État indonésien et représentaient 263 millions d'Indonésiens. Tous les athlètes ont été soutenus par un très long entraînement et un travail acharné. Le président estime qu'avec du travail acharné et de la formation d'une longue période, nous aurons d'autant d'or. Le président a souligné que l'objectif de l'Indonésie était clair, comme ce qui a été déclaré par le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Puan Maharani. L'objectif est que l'Indonésie entre dans le top 10. On doit obtenir au moins 16 d'or. Le chef de l'État a affirmé qu'il avait assisté à plusieurs exercices qui avaient eu lieu, et le chef de l'État estime que ces exercices à long terme donneront de bons résultats. Avant, le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Puan Maharani, a déclaré dans son rapport que le contingent indonésien qui participerait aux 18e Jeux asiatiques en 2018 comptait 1383 personnes. Il se compose de 938 athlètes, 365 officiels et 86 sièges sociaux. Il a déclaré que cette équipe participera à 40 sports dans 67 disciplines et 465 numéros de match pour combattre 465 médailles d'or. Selon Puan Maharani, le 18e Jeux asiatiques de 2018 seront commencés le 18 août 2018, mais depuis le 10 août 2018, le tour préliminaire de football a déjà commencé. L'Indonésie concourra le 12 août 2018 contre la Chine Taipei au stade de Patriot Chandra Daga à Bekasi. Puan Maharani a affirmé que l'équipe indonésienne était prête à enflammer l'esprit de lutte pour la plus grande réalisation. La cérémonie de la libération du contingent indonésien aux 18e Jeux asiatiques a également été suivie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, et le président d'Inaskok, Erick Thohir. C'est tout la mise au point de la semaine.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 août. On commence par le 12 août 1902, la naissance de Mohammad Hatta. Mohammad Hatta était un combattant, l'homme d'État, l'économiste et le premier vice-président de l'Indonésie. Lui et Sukarno ont joué un rôle important pour libérer la nation de l'Indonésie du colonialisme néerlandais et a proclamé le 17 août 1945. Il a également été premier ministre dans le cabinet Atta 1, Atta 2 et RIS. Il a démissionné de son poste de vice-président en 1956 en raison d'un différend avec le président Sukarno. Hatta est également connu comme le père des coopératives indonésiennes. L'aéroport international de Tangerang Banten, l'aéroport Soekarno-Hatta, a utilisé son nom pour rendre hommage à ses services. Le nom de Mohammad Hatta, qui est né le 12 août 1902, est également inscrit aux Pays-Bas comme le nom de Rauw dans la zone du logement Zuiderpolder Haarlem sous le nom de Mohammad Hatta Straat. Le 12 août 1985, le vol 123 de Japan Airlines en Boeing 747-46SR s'est écrasé sur le mont Takamagahara dans la préfecture du Gunma. Le vol 123 de Japan Airlines en Boeing 747-46SR s'est écrasé sur le mont Takamagahara dans la préfecture de Gunma, au Japon, 100 km de Tokyo, le 12 août 1985. Cet accident monoplan a été la pire dans l'histoire de l'aviation, avec les 15 membres de l'équipage sont morts et 505 de 509 passagers sont morts avec un total de 520 décès. Il y avait 4 survivants, tous des passagers. JAL 123 décolle de l'aéroport de Haneda à 6h12 heure locale. Le 12 août 1990, le squelette le plus complet de Tyrannosaurus Rex a été trouvé dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Un chasseur de fossiles nommé Susan Hendrickson a trouvé 3 gros os dans un ravin du Dakota du Sud aux États-Unis. Les os faisaient partie du plus grand squelette de Tyrannosaurus Rex. Les os d'animaux carnivores ont été estimés à 65 millions d'années. Le squelette de T-Rex s'appelait Sue, selon le surnom de Hendrickson. L'équipe de découverte a réussi à collecter 90% du squelette de Sue. Le squelette de Sue est finalement exposé au musée de Field depuis mai 2000. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « Le vice-président indonésien et Ines Koch sont reconnaissants d'obtenir des fonds supplémentaires de 6 millions de dollars américains ». Le vice-président Yusuf Kalla a assisté à la signature de la coopération de Perennes entre Ines Koch et Qatar Airways afin de réussir les Jeux asiatiques de 2018. Selon la surveillance de Radio République Indonésia, la signature et la soumission de fonds de soutien ont été symboliquement donnés au président de Ines Koch, M. Erick Thohir, et vice-président indonésien Yusuf Kalla. Qatar Airways fournit des fonds de soutien de 6 millions de dollars américains pour le succès de l'Indonésie aux Jeux asiatiques. L'ambassadeur du Qatar en Indonésie, Ahmad bin Yasin Mohamed, au bureau du vice-président à Jakarta, a déclaré jeudi que la signature de la coopération pour les Jeux asiatiques est une coopération de gouvernement à gouvernement. Cela montre que les relations entre le gouvernement des deux pays sont très bonnes. Le vice-président Yusuf Kalla, qui préside également le comité de pilotage des Jeux asiatiques, a déclaré que la coopération devrait être une étape qui établit toujours les relations entre l'Indonésie et le Qatar. Le vice-président a reconnu que ces divers soutiens étaient très importants pour le succès de toute la série des grands fêtes de 4 ans en Asie. Il a déclaré que cette participation pourrait aider les Jeux asiatiques 2018 et vice-versa. L'Indonésie introduirait plus largement Qatar Airways en Asie. Auparavant, Erick Thohir, le président du comité d'organisation des Jeux asiatiques ou Ines Koch, a grandement apprécié l'aide de 6 millions de dollars américains qui a été donnée 9 jours avant la mise en œuvre des 18e Jeux asiatiques. Erick a ajouté qu'en plus de l'argent, le Qatar a fourni une autre assistance sous la forme d'un trajet pour transporter 40 chevaux de différents pays. Les chevaux sont envoyés pour divers besoins de la mise en œuvre des Jeux asiatiques 2018. Comme une réciproque, Qatar Airways bénéficiera de l'installation de logos pour des promotions sur les différents sites des Jeux asiatiques 2018, notamment à l'arène des matchs. Il va obtenir une image de marque complète, l'un d'entre eux est à l'arène de football. Qatar Airways, en tant que sponsor, porte à environ 850 milliards de roupias de soutien financier total des sponsors pour la mise en œuvre des Jeux ASEAN. Avant la coopération avec le Qatar, l'aide totale au Bahreïn s'élevait à environ 760 milliards de roupias. Chers amis, voilà mon Indonésie. Le président indonésien Joko Widodo, vendredi à Jakarta, a déclaré que le gouvernement indonésien s'ouvre à la possibilité d'une aide étrangère pour les victimes de la catastrophe de Lombok à Nusa Tenggara Ouest. Néanmoins, le président a souligné que le gouvernement indonésien était en mesure de soigner les victimes, notamment pour mener le processus de réhabilitation et de construction des bâtiments qui ont été détruits par le séisme. À la même occasion, le président a également dit la possibilité qu'il se rende dans la province de Nusa Tenggara Ouest pour voir directement la gestion des catastrophes effectuées par son personnel. Nous sommes ouverts à recevoir l'aide parce que les gens là-bas en ont besoin. Mais nous sommes encore capables de surmonter cela en reconstruisant les maisons endommagées. Et maintenant, il y a encore le tremblement de terre. On m'a conseillé d'y aller dimanche, ou bien lundi, ou bien mardi. Presque tous les jours, il y a toujours un tremblement de terre, qui n'est pas un petit tremblement de terre. Hier, 6,2 et auparavant, 6,5. Auparavant, un séisme d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter a secoué la province de Nusa Tenggara Ouest le dimanche 5 août 2018 après-midi. Selon les données de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, la région de l'ouest de Lombok, les de Lombok et la ville de Mataram sont devenues les zones les plus touchées par le séisme. Jusqu'à hier, une réplique d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter était encore ressentie dans la région. Le gouvernement indonésien continue d'encourager les changements dans les normes d'émission de fuel oil au BBM Euro 2 à Euro 4. L'utilisation du carburant aux normes d'émission Euro 4 non seulement peut donner un impact positif sur la santé de l'air, mais aussi sur l'économie de l'Indonésie. Le responsable de la conservation de l'environnement du ministère de la Coordination des Affaires économiques, Dida Gardera, a déclaré que les avantages économiques ne pouvaient pas être séparés de la nature du carburant Euro 4, qui était plus écologique que Euro 2, qui était actuellement disponible dans la station d'essence ou SPBU Pertamina en Indonésie. Selon Dida, le nombre de pertes dues à la pollution de l'environnement a atteint 40 000 trillions de rupiah. Ce chiffre provient de divers problèmes de santé publique dus à la respiration de l'air pollué et aux dommages de diverses installations et bâtiments causés par les pluies acides.
Beberapa lembaga research itu mengatakan dengan kemacetan yang ditimbulkan.
Certain institute de recherche ont déclaré que les embouteillages faisaient la pollution qui atteint 40 000 trillions de rupiah. Nous approfondissons cette question. Mais en effet, avec les embouteillages et la pollution, cela nuit à la santé. Et n'oubliez pas, parce que c'est dérivé du soufre. Ce soufre provoque des pluies acides. Les pluies acides sont corrosives. Avec l'amélioration de carburant, l'impact sur l'environnement diminuera bien qu'il y ait les embouteillages. Selon Dida, la mise en œuvre du carburant Euro 4 fera des produits automobiles qui sont assemblés en Indonésie peuvent facilement pénétrer le marché de l'exportation. On peut dire que l'Indonésie est en retard sur la mise en œuvre des normes d'émission Euro 4. Singapour a mis en œuvre ses normes d'émission en 2006 et ensuite la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie en 2013. Par conséquent, le ministère de la Coordination des Affaires économiques encourage toutes les parties concernées à accélérer l'utilisation de carburant Euro 4. Il a l'intention de réaliser du carburant Euro 4 dans les 20 prochains mois. Dida a également confirmé que l'industrie automobile nationale était prête à mettre en œuvre du carburant Euro 4. Les nouvelles voitures qui sont vendues à partir d'août 2018 doivent respecter les normes Euro 4, mais les voitures de carburant Euro 2 peuvent encore être utilisées et le type de carburant est disponible. Le processus continue à fonctionner normalement jusqu'à toutes les raffineries de pétrole de Pertamina peuvent répondre à tous les besoins de carburant Euro 4. Le gouvernement colombien espère que l'Indonésie pourra immédiatement accorder la liberté de visa aux Colombiens qui veulent se rendre en Indonésie. Cela a été dit par le chargé d'affaires de l'ambassade de Colombie pour l'Indonésie, Claudia Lopez, récemment à Jakarta. Selon lui, actuellement, la politique d'exemption de visa du gouvernement indonésien pour la Colombie n'a atteint que les visas des fonctionnaires et des diplomates. La même chose n'est pas encore arrivée à la communauté colombienne dans son ensemble. Claudia Lopez a souligné l'importance d'accorder des exemptions de visa aux Colombiens parce que le gouvernement colombien a donné cette liberté au peuple indonésien. Elle espère que l'exemption de visa pour les Colombiens pourra être réalisée dans le but de soutenir le renforcement de coopération entre les deux pays. Claudia Lopez a déclaré que l'Indonésie et la Colombie avaient des similitudes dans divers domaines. Les deux pays sont des pays du Pacifique avec une similitude géographique. C'est un potentiel pour les deux pays d'améliorer leurs relations de coopération en partageant leurs expériences pour améliorer l'économie des deux parties. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur américain en Indonésie, Joseph Donovan, a dit que le gouvernement et le peuple américain attendent les élections législatives, présidentielles et le vice-président de l'Indonésie en 2019 pour se dérouler Libremont et Pacifique Vermont. Cela a été dit par Donovan au journaliste à l'ambassade américaine à Jakarta récemment. L'ambassadeur Donovan a également précisé qu'il n'y avait pas de discussion sur l'élection à la réunion du secrétaire d'État Mike Pompeo avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et avec le président Joko Widodo lors de sa visite à Jakarta du 4 au 5 août 2018. Selon Donovan, les États-Unis continueront d'honorer la compréhension, la pratique et les relations de la démocratie en Indonésie qui respecte la valeur de la diversité, le pluralisme et la tolérance. Il a également confirmé que les deux pays se sont avérés avoir un engagement ferme à mettre en œuvre ces valeurs dans la vie démocratique. L'Indonésie organisera les élections législatives, président et vice-président de l'Indonésie pour les 5 prochaines années simultanément le 17 avril 2019. L'Indonésie organisera des élections législatives, président et vice-président pour la période de 5 prochaines années simultanément le 17 avril 2019. L'Indonésie et les Philippines sont d'accord pour renforcer la coopération de la défense, y compris l'élimination du terrorisme à l'avenir en impliquant les forces terrestres, maritimes et aériennes. Cela a été déclaré par le ministre de la Défense, Riamizat Triakudu, récemment à Mani, lors d'une réunion avec le ministre philippin de la Défense, Delphine N. Lorenzana. Selon Riamizat Triakudu, la coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays, y compris l'éradication du terrorisme, se déroule bien. Bien que la situation dans la région, notamment la frontière entre l'Indonésie et les Philippines, soit relativement sûre, les menaces terroristes devaient toujours être surveillées. Le ministre philippin de la Défense, Delphine N. Lorenzana, a déclaré que le terrorisme est un crime que ne reconnaissait pas les frontières des États. La mise en œuvre de la coopération de sécurité et de défense entre les deux pays est une forme d'engagement des deux pays à assurer la stabilité de la sécurité, non seulement pour les deux pays, mais aussi la sécurité régionale. Il a souligné que cette coopération devait continuer à être améliorée par diverses plateformes telles que le dialogue, l'échange d'informations et des autres. Jérémy, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel. Pesona Indonesia.
Les auditeurs, on se retrouve dans le Magazine Culturel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plage de Manakara, Mamuju, la province de Sulawesi du Sud. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, non seulement par l'onde courte de 925 kHz, vous pouvez également nous écouter par la diffusion en direct de www.voinews.id. Mamuju est une petite ville située à Sulawesi du Sud. Son emplacement est très stratégique car il est un endroit d'un triangle d'or, c'est le Sulawesi du Sud, Sulawesi Central et Kalimantan Oriental. Mamuju a le plus long littoral de Sulawesi du Sud, environ 415 km. Mamuju a des plages très magnifiques, l'un d'eux est la plage de Manakara. Les auditeurs, la plage de Manakara est une plage spéciale qui a une très belle vue. Les particularités de cette plage de Manakara sont les sapins et les sables noirs qui s'étendent jusqu'à 5 km. La plage de Manakara fait partie de la baie de Mamuju où se trouve le port de Batu. Le port de Batu est l'un des centres de transport de la ville de Mamuju. La plage de Manakara est une destination touristique non seulement pour les touristes nationaux, mais aussi pour les touristes étrangers. Sur cette plage, vous pourrez vous détendre tout en regardant la beauté de cette plage de sable noir. En s'asseyant, vous pouvez regarder la plage qui brille en raison du soleil et les bateaux de pêche. D'habitude, cette plage de Manakara commence à être visitée de 16h du soir. Les auditeurs, si vous voulez y rester en ville de Mamoudzou, il y a des hôtels ou des auberges. De la plage de Manakara au centre-ville de Mamoudzou, on a besoin d'environ de 30 minutes. Mais si vous ne voulez pas être en retard de profiter du beau soleil, vous pouvez passer la nuit à installer une tente sur cette plage. La nuit, la plage de Manakara offre une vue magnifique. Parce que la nuit, cette plage sera remplie de lumière rouge provenant du ferry qui accostera ou partira du port de Mamoudzou. Et si vous voulez apporter des souvenirs à emporter chez vous, vous trouverez dans cette zone côtière de nombreux magasins de souvenirs et des stands vendant une variété de plats, de boissons et de souvenirs typiques de Sulawesi. Et vous pouvez également apporter des oranges douces qui sont des fruits typiques de Mamoudzou. Les auditeurs, pour y arriver, c'est facile. Vous pouvez utiliser les transports en commun ou les véhicules de location. Et vous pouvez commencer le voyage de l'aéroport de Tampa Padang, Mamoudzou, Sulawesi du Sud, et puis à la plage de Manakara. Ce trajet de l'aéroport à la plage de Manakara prend environ 30 minutes. Et à la plage de Manakara, vous pourrez déguster une variété de collations légères telles que des bananes, des patates douces, des haricots frites et divers autres types d'aliments frites. En outre, à cette plage, vous pourrez également déguster des aliments tels que du riz frit, du soto, du poisson grillé typique de Mamoudzou. Et si vous venez en août et en septembre, vous pourrez profiter de la récolte de durian dans ce mois. Et vous pouvez acheter du durian qui a un bon goût dont le prix est seulement 5000 roupies. Les auditeurs, si vous êtes à Sulawesi du Sud, par exemple à la ville de Makassar, prenez le temps de visiter la plage de sable noir de Manakara. C'est tout le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie cette fois. À bientôt!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, encore avec moi, Tiwi, dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de Festival Pesona Borneo 2, ou le deuxième festival de l'enchantement de la culture de Borneo. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Les auditeurs, le Festival de l'enchantement de la culture de Borneo, qui aura lieu de 11 à 15 août 2018. Cette année, le festival se déroulera à Banjarmasin, la capitale du Kalimantan du Sud, après le dernier festival qui a eu lieu au Taman Mini Indonesia Indah de Jakarta. Cette activité est centrée sur l'ancien bureau du gouvernement de Kalimantan du Sud à la rue du général Sudirman Banjarmasin. Lors de ce festival, il y a des spectacles culturels de Dayak qui présentent des divers arts tels que des danses et des créations traditionnelles, de peindre en bouclier, de sculpter de talawang ou bouclier, exposition de produits de qualité supérieure, de concours photo des charmes de Dayak et diverses autres traditions du Kalimantan du Sud. Cette activité a également été marquée par un carnaval culturel auquel ont participé des participants de Kalimantan, ainsi que de la communauté locale, comme les amateurs de vieilles bicyclettes ou les maniaques d'ontel. Des participants de Kalimantan et des pays voisins, la Malaisie ont participé à ce carnaval. Les auditeurs, le président du deuxième festival de l'enchantement de la culture de Bornéo a déclaré que cette activité sera participée par des centaines de participants de province de Kalimantan et des pays voisins. Selon Raymond, en tant qu'hôte de la province de Kalimantan du Sud et du conseil coutumier de Kalimantan du Sud, ils se sont préparés à accueillir des invités et des contingents d'autres provinces avant qu'ils puissent fournir le meilleur dans la mise en œuvre de cette activité nationale. Le chef du bureau de tourisme de Kalimantan du Sud, Herian Shah, a déclaré que ce festival devrait augmenter le nombre de touristes étrangers et de touristes locaux en 2020. Selon lui, plusieurs ministres de la République d'Indonésie, cabinet de travail, 12 ambassadeurs de pays amis, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, le Brésil, le Tchèque, les Pays-Bas, la Chine, l'Arabie Saoudite, le Japon, la Malaisie, le Singapour, le Brunei Darussalam, ont participé au festival. Les communautés de Dayak en Sarawak, en Malaisie et en Brunei Darussalam ont également participé à cette activité. Tandis que Difriyadi Darjat, le président du conseil coutumier de Dayak Kalimantan du Sud, a déclaré que le thème promu pour ce festival de 2018 et avec la culture et le tourisme, nous bougeons pour construire le Kalimantan pour plus de prospérité. Selon lui, ce festival présentera la richesse, la sagesse locale de la population de Kalimantan, soit sous la forme culturelle et soit sous la forme de la culture renouvelée imprégnée de l'esprit de Bhinneka Tunggal Ika. Difriyadi a ajouté que cette activité est un moyen de promotion et de publication de l'art et de la culture de la population de Kalimantan. En plus d'être un moyen de promotion et de potentiel artistique et culturel des habitants de Bornéo, ce festival vise également à établir une communication stratégique sur le marketing de produits régionaux dans divers secteurs nationaux ou internationaux. Il est également pour accroître la créativité de la communauté sur le domaine du développement scientifique et technologique, des arts et de la culture. C'est aussi pour renforcer la compétitivité économique de la population de Kalimantan et pour les installations de divertissement, pour l'interaction et la socialisation qui sont éducatives pour la communauté et pour encourager les visites des touristes étrangers et des touristes nationaux. Ce festival devrait présenter et informer les participants et les visiteurs sur la diversité des cultures et la sagesse locale du Kalimantan qui doivent être ensemble préservées.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrier et Musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons d'un chanteur indonésien s'appelle Bams. Il est né dont le nom est Bambang Reguna Bukit et il est plus connu sous le nom de Bams. Il a commencé sa carrière en tant que chanteur du groupe Samson. Mais en 2012, il a quitté Samson et il est devenu chanteur solo. Avant de saluer nos auditeurs, écoutons la chanson de Bams intitulée « Terbebas, terlepas » ou en français, libre à part. Bonne écoute et restez avec nous à www.voinews.id.
Aku tak bisa lagi bertahan dengan dirimu. Aku tak mampu lagi layani keangkuhanmu. Aku tak mau lagi disakiti oleh dirimu. Aku tak mau lagi bersama dengan dirimu. Ku harap engkau mengerti, Sudah berapa kali ku beri kau kesempatan untuk perbaiki semua sifat-sifat burukmu, tetapi kau selalu mengelak dengan seribu satu alasan. Aku lelah mengalah untuk dirimu. Aku sudah bosan menunggu. Ku sudah bosan menanti. Ku ingin terbebas. Ku ingin terbebas. Dari belenggu dirimu, ku ingin terlepas, ku ingin terlepas, ku ingin terlepas dari belenggu dirimu. Ku ingin terbebas, ku ingin terlepas, ku ingin terbebas. Dari belenggu dirimu.
Voilà la chanson Terbebas Terlepas par Bams. Cette chanson joyeuse raconte de quelqu'un qui est séparé de son petit ami qui est mauvaise et qui lui fait souvent des erreurs. Ensuite, il ressent maintenant la liberté. Bon, chers amis, merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé les courriers, les rapports d'écoute et email. Maintenant, je vais saluer Omar Lassas à BP530, bureau de poste Emir à EK29008 Mascara, Algérie, et je vais lire son email. Chers amis, la famille de la Voix de l'Indonésie, bonsoir, et j'espère que vous allez très bien et en bonne santé. À la suite du tremblement de terre qui a gravement touché la région de l'île de Lombok, de 7 sur l'échelle de Richter, j'adresse toute ma sympathie au peuple indonésien, aux rescapés et aux proches de victimes et je tiens à vous apporter mon soutien à toutes les familles affectées par cette catastrophe naturelle et vous faire part de mes plus sincères condoléances. En fin de compte, veuillez accepter ma plus haute considération et mes respects. L'auditeur de l'Algérie, Omar Lassas, merci pour votre email. Espérons que les victimes du séisme de Lombok récupèrent rapidement. Et je vais également lire l'email de l'auditeur de l'Algérie, Nahmouchi Nouari, BP 154B7YV1900 Algérie. Il a écrit: bonjour, je suis très affecté par le séisme qui a frappé l'Indonésie. Merci, chers auditeurs, d'écouter la voix de l'Indonésie et merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Chers amis, maintenant, écoutons la chanson intitulée « Selalu mencintaimu » ou en français « Je t'aime toujours ». Bonne écoute!
Harap kau sadari, tak mungkin lagi kita tuk bersama. Ku harap kau mengerti, percuma memaksakan semua ini. Seisi dunia seakan menentang kita, lebih baik kita akhiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai sesali semua yang telah kulalui denganmu. Kau ajariku cinta, kelak ku tahu apa yang ku cari. Semoga dirimu bahagia walau tak bersamaku. Cinta tak harus memiliki, tak selalu berakhir indah. Ku kan selalu mencintai. Dirimu
bahagia walau tak bersamaku. Lebih baik kita kiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai.
Chers auditeurs, d'être fidèles, écoutez la voix de l'Indonésie. Voilà la chanson « Selalu mencintaimu » ou « Je t'aime toujours » chantée par Bams. Cette chanson raconte d'un couple d'amoureux qui s'aiment mais ils ne peuvent pas être ensemble. Puis ils se sont séparés, mais ils s'aiment toujours. Chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes et toute l'équipe francophone de la voix de l'Indonésie vous dites un grand merci à tous. Et avant de terminer ce programme, on écoutera deux chansons chantées par Bams, intitulées Lawan Sepadanku, ou en français, Adversaire équivalent, et Semangat Membara, en français, Esprit brûlant. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Terkalahkan berusaha kembalikan semua yang terhilang. Tak ada kata menyerah, selalu ada semangat membara yang terpendam.
Harus bertahan akan menyerah, terus berjuang kata untuk berhenti, selalu ada semangat membara.
Biarlah semua berlalu kegagalan.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.